aujourd'hui pour évoquer Doramar. Nous sommes en compagnie de Damaris Amao, historienne de la photographie. Elle a été la commissaire de l'exposition Doramar au Centre Pompidou en 2019 et collaboré au catalogue. Voilà, vous savez tout. Bienvenue à tous. C'est la compagnie des œuvres.
Doramar, je voudrais vous demander alors maintenant si vous vous êtes heurté, vous, à des difficultés particulières relatives au fait que vous êtes une femme, difficultés que n'aurait peut-être pas éprouvé un homme artiste.
Non, pas du tout. Je me suis heurté à une difficulté que je vois se reproduire continuellement pour les hommes comme pour les femmes. Quand le jeune homme ou la jeune fille dit « je voudrais être peintre », la famille dit « ah, c'est très bien, mais tu sais, c'est très difficile, tu ferais bien de faire d'abord une école, par exemple une école d'art décoratif ». Et ça, je le vois continuellement.
Pour que ça serve à quelque chose.
Pour que ça serve à quelque chose. Et là, on perd son temps pendant 4 ou 5 ans au lieu de commencer tout de suite à travailler, car l'art décoratif est une chose tout à fait différente. L'art décoratif, art appliqué, je ne sais quoi de ce genre.
Alors vous considérez...
Et ça, je le vois tout le temps.
Et vous considérez-vous que vous avez perdu une partie de votre temps de cette façon?
Une grande partie. Je crois qu'on peut parler de l'artiste sans s'occuper s'il est homme ou femme. Mais peut-être les femmes auraient moins de volonté que les hommes. Moins le désir de poursuivre un but. Et d'aller jusqu'au bout. La femme n'a pas créé une école nouvelle. La femme n'a pas créé le cubisme. La femme n'a pas créé le surréalisme. Elle peut être surréaliste ou elle peut appartenir à une école, mais elle n'a pas créé un mouvement.
C'est cette archive qui nous semble surréaliste aujourd'hui. Archive où Doramar était interrogée par André Parino. Bonjour Damaris Amao.
Bonjour.
Pas très féministe donc Doramar si on en croit ce document.
En effet, le témoignage que vous nous faites écouter semblait assez surprenant hein, quand aujourd'hui on voit la réception de Doramar dans l'histoire de l'art des femmes et de voir ce propos qui minorerait la part des femmes dans l'histoire de la photographie, de l'histoire de l'art. Bah, je pense qu'il faut quand même déjà le comprendre par rapport au contexte et peut-être surtout à cette peur d'être réduit à cette image d'artiste femme et plutôt d'être connue comme un artiste mais à part entière et de pouvoir être reconnue comme telle.
Oui, parce que à la question « qui est Doramar ?», elle aurait sans doute répondu d'abord « je suis une artiste ».
Oui, c'est vrai. Doramar, et c'est peut-être un peu l'enjeu de l'exposition que nous avons montrée au Centre Pompidou maintenant, il y a quelques mois, quelques années, c'était de montrer, de ne pas réduire Doramar à sa biographie, à sa relation avec Picasso, à ses relations fantasmées et multiples, mais vraiment de remettre au centre son travail de photographe et son travail d'artiste peintre, moins connu du grand public notamment.
Alors elle ne s'est pas toujours appelée Doramar. Quel est son nom?
Alors son nom de naissance est Henriette Théodora Markovitch.
Théodora Dora et Markovitch Mar.
Mar, oui. Dora en effet est le diminutif hein, de Théodora. On ne sait pas à quel moment elle adopte ce diminutif, mais il va devenir son nom de nom d'artiste, son nom de guerre à partir de la fin des années 20, début des années 30.
Elle naît en 1907.
Oui.
Ses parents sont d'une bourgeoisie moyenne. Son père est architecte, un architecte de renom déjà.
Oui, c'est quand même un architecte d'origine yougoslave qui est assez réputé à l'époque. Du moins, il a des commandes et puis il va notamment beaucoup travailler en Argentine, là où Doramar et ses parents vont émigrer durant son enfance. Et là, il va avoir plusieurs commandes et sa mère, on ne sait pas exactement si elle avait une activité continue. Apparemment, elle a tenu une boutique de chapeaux. Elle était française et c'est dans ce milieu-là qu'elle a vécu.
Donc enfance en Argentine entre 1910 et 1920 à peu près, avec des allers-retours.
Oui, en effet. Donc, Dora Maar va revenir au moment de voilà du collège, du lycée à Paris, dans le 16e arrondissement, où elle va poursuivre la fin de ses années secondaires, et puis poursuivre une formation à l'Union des Arts Décoratifs, et plus précisément au Comité des Dames. C'était la section qui était dédiée aux jeunes femmes qui voulaient se consacrer aux arts appliqués. C'est là qu'elle va rencontrer quelqu'un comme Charlotte Perriand, comme Marianne Clouzot, comme Jacqueline Lambard, hein, la seconde épouse d'André Breton. Et après ces 3 années de formation au Comité des Dames, elle va refaire des allers-retours entre 27 et 28, entre Paris et l'Argentine, et définitivement se réinstaller à Paris à la fin de, autour de 1928-1929.
Ce qui fait qu'elle est bilingue français-espagnole.
Oui, à tel point qu'à cette époque-là, on retrouve quelques articles, on ne sait pas véritablement quelle est son origine. Parfois, alors son cercle d'amis sait que son caractère énigmatique tiendrait à ses racines slaves. Et puis, on retrouve un article un peu plus mondain où on pense qu'elle est espagnole. Alors, voilà, je pense qu'elle a joué un peu sur son cosmopolitisme pour accentuer son caractère, son style.
Alors, vous parlez de son cercle d'amis. C'est vrai que c'est important parce que dans les première décennie de la vie de Dora Maar, on la voit toujours entourée de beaucoup de gens et on a l'impression que c'est très important de faire partie d'un cercle et en l'occurrence d'un cercle de gens très avant-gardistes.
Oui, on peut dire qu'un peu Dora Maar, dans les années 20, elle appartient à un cercle de jeunes gens modernes. Elle est très amie avec les filles du conservateur du musée Galliera, les filles Clouzot. Alors, on retient aujourd'hui leur cousin Henri-Georges Clouzot, qui mettra en scène un peu un personnage dans l'un de ses films qui rappelle Dora Maar. Et donc, elle est dans ce milieu de jeunes gens qui sont au fait de l'actualité artistique, culturelle, qui dansent sur du jazz, vont en voiture, font des surprises parties. On retrouve quelqu'un comme Louis Chavrance, quelqu'un comme Jacqueline Lambac, que j'ai évoqué déjà. Et donc ce petit milieu.
Jacques Prévert aussi.
Alors pas encore, plutôt au début des années 30, quand elle est plus proche du groupe Octobre et que son cercle se déplace en évoluant, en suivant son évolution politique.
Les premiers clichés, de quand datent-ils d'Amarissa Mao? Comment commence-t-elle la photographie?
Alors, les tout premiers clichés, c'est difficile de dater exactement, mais peut-être ce qu'il faut préciser, c'est qu'après avoir suivi cette école d'art appliqué de l'Union des Arts Décoratifs, Dora Maar va continuer sa formation en suivant des cours de peinture à l'atelier André Lhote, par exemple, ou à l'Académie Julian, et puis elle va aussi se former à la photographie à l'école technique de photo et de cinéma de la ville de Paris. C'est là qu'elle va parfaire sa formation professionnelle. Donc on est autour de 1928 et on retrouve quand même des premières photographies de Dora Maar au moment de ces voyages qu'elle fait, que j'évoquais tout à l'heure, entre l'Argentine et la France. Et elle prend des photographies
qui ressemblent à quoi ces photos-là?
C'est des photographies. Alors, ils ont un petit format, c'est des photographies du paquebot où elle s'essaye déjà un petit peu à des décadrages, des motifs, et des visions de la mer. Et donc, elle va publier ses premières photographies autour de 1928.
Donc, c'est vraiment la jeune femme moderne par excellence.
Ah oui, la photographie, la femme photographe hein, à cette époque-là, un peu sous l'influence des Américains. Dès le début des photographes américaines dès le début du XXe siècle, la photographe dans l'entre-deux-guerres, hein, c'est la femme, c'est l'incarnation de la femme moderne, hein, c'est de la mélange de New Woman à l'américaine et de la garçonne à la française.
Dans le secret de moi-même, à moi-même secret, vivant tu me fais vivre. Dans cette chambre où j'ai vécu la folie, la peur, le chagrin, c'est l'éveil simple un jour d'été. L'exil est vaste, mais c'est l'été. Le silence, en plein. Soleil, une enclave de paix, où l'âme n'invente que le bonheur. Un enfant, sur la route de sa maison. Love and Doraemon, I know. Now, I can understand your feelings. As you understand.
C'est bien France Culture que vous écoutez, et à l'instant le poème de Dora Maar lu par Laurence Millet. Je dis le poème, mais il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'elle était également poétesse, et à quel point c'est important, Damarissa Mao?
Alors, Dora Maar n'a pas publié de poèmes en tant que tel dans des revues, peut-être notamment surréalistes, mais dans ses archives, on voit qu'il y a de nombreux carnets. On voit que l'écriture a été quelque chose d'important pour elle, qui a été une activité assez constante en parallèle de sa photographie, de sa peinture. C'est plutôt des morceaux, des passages, des paragraphes. Il y a des poèmes plus aboutis, et on sent que c'est une activité qu'elle a poursuivie, mais peut-être plus dans l'intimité, comme on écrit son journal de manière régulière.
Alors elle ne commence pas tout de suite par des photos qu'on pourrait qualifier de photos d'art. Elle commence plutôt par des photographies de mode, des travaux publicitaires.
Oui, c'est un aspect qu'on a voulu, notamment dans l'exposition au Centre Pompidou avec mes collègues Carolina Lewandowska et Amanda Maddox, vraiment mettre en avant le fait que cette part commerciale, cette photographie appliquée, qui est quand même aussi le cœur de la photographie dans l'entre-deux-guerres à cette époque. Et Dora Maar et son parcours est assez exemplaire de cette importance et de ce développement de cette photographie commerciale. Alors en effet, quand elle ouvre son studio avec Pierre Kaeffer, qui est quelqu'un qui vient du cinéma,
il a été
décorateur pour Jean Epstein, ils vont s'associer en 1931-32. Ils vont avoir un atelier super bien équipé du côté de Neuilly, avec éclairage électrique. Pierre Kaeffer vraiment apporte sa connaissance de la lumière, de la mise en scène, et Dora Maar sa formation de photographes professionnels, et ils vont s'associer. Leur activité au début va être en effet le portrait, de la commande de mode pour, par exemple, une maison comme Haim, comme Patou.
Pour des cosmétiques aussi.
Pour des cosmétiques également, notamment des marques de coiffure comme Dolphar, qui était spécialisée dans le fer à friser.
Est-ce que c'est important ce passage finalement par une photographie commerciale pour comprendre Dora Maar, parce qu'elle va abandonner ça ensuite.
Elle va abandonner, ou du moins, quand même, c'est une activité qui rapporte à cette époque-là, et il y a de la demande. Hein. On est à un moment où la photographie, où la publicité commence à vraiment mettre de côté le dessin et à s'ouvrir aux possibilités de la photographie. Donc il y a une demande en images, une demande en photographe qui saurait comme ça magnifier les objets, et c'est une activité qui reste lucrative et qui va soutenir aussi son activité. Et puis les gestes professionnels, les gestes professionnels, notamment dans la mise en scène, dans le travail de laboratoire, elle va l'importer en effet dans sa pratique du photomontage surréaliste. Donc tout ça va nourrir, de la même manière que Man Ray faisait de la photographie de mode, et puis ses expérimentations surréalistes, il profitait un peu de ses photographies de mode pour faire des expérimentations surréalistes, et en même temps les opportunités offertes par ce champ leur permettait de développer leur recherche plastique.
Alors donc, vous avez parlé de Kaeffer, il faudrait parler de Germain Bazin et de ce voyage au Mont-Saint-Michel. Pour prendre en photo le Mont-Saint-Michel avec des textes de cet historien de l'art, Germain Bazin, elle est encore assez jeune, c'est fondateur ce voyage ?
Oui, en effet. Alors, on est en 1931, quand Dora Maar accompagne Germain Bazin, cet historien de l'art, pour photographier le Mont-Saint-Michel. C'est une de ses premières, commandes importantes. Et donc, elle va accompagner Germain Bazin pour photographier le monument de la manière la plus professionnelle, hein, qui montrait tous les détails architecturaux, décoratifs du Mont-Saint-Michel. Michel, et aussi, on le voit notamment dans la réception de l'époque, apporter son œil d'artiste, photographe. Et donc, les photographies qu'elle va faire, en tout, elle fait une quarantaine de photographies de prises de vue pour lui. Et puis, en 1933, va être publié le Mont-Saint-Michel en deux volumes, un volume de texte et un volume d'images avec des photographies de Doramar.
Doramar klaksa suporai traite.
Le portrait de Doramar.
Sul Dora, milum limar, sur pristi ishti vishti, milkel melobor.
Sera
traite koljov dimraj, grejov tuva, golda poltek, silprindi, sera.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Est-ce que cette musique peut correspondre à l'image que vous vous faites de la personnalité de Doramar dans ses jeunes années ?
J'ai du mal un peu à situer. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la source
C'est le mystère de Laurence Millet, la réalisatrice de cette émission. Il faut dire alors qu'elle se défait un petit peu de ses mentors au fur et à mesure que les années passent et elle rejoint le mouvement surréaliste. Est-ce qu'elle est vraiment surréaliste ? Est-ce qu'on peut dire Doramar, c'est une photographe surréaliste d'Amaris Amao ?
Eh bien, j'ai envie de répondre oui, quand même, parce que avant, même si elle rencontre les surréalistes seulement autour de 1934, autour de ce moment politique particulier qui va réunir la gauche en France. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Quand on regarde, vous me parliez de vous évoquiez ses premières photographies de Doramar. Alors j'ai parlé de celles qu'elle prend dans ses voyages entre Paris et Buenos Aires, mais il y a d'autres photographies à cette période qu'elle prend dans Paris et qui montrent son regard surréalisant où elle cherche le fantastique urbain, le hasard objectif, et ce sont des photographies qui portent une attention sur les ombres, sur les reflets. Et il y a beaucoup de surréalisme dans ça. On voit qu'elle a lu le paysan de Paris d'Aragon en 26, on voit qu'elle connaît Hadjet, et ce rapport à la ville de Paris qu'elle a dès dans sa pratique amateur, hein, les jeux qu'elle a avec la photographie, de surimpression aussi qu'elle fait à cette même époque, montre que il y a dans Doramar quand même un esprit surréaliste, comme Henri Cartier-Bresson à la même époque.
Elle a d'ailleurs croisé.
Oui, à l'atelier André Lhote. Donc c'est pas exactement quelle était la teneur de leur échange, mais c'est assez singulier, hein, ce parcours assez identique, similaire.
Donc une photographe de rue dans la grande tradition. Enfin, dans la tradition plutôt du merveilleux moderne de cette époque-là et des surréalistes. Les photomontages aussi sont très surréalistes d'Amaris Amao.
Oui, en effet, je pense que ce sont les photomontages de Doramar la font rentrer dans le panthéon surréaliste ou dans les grandes icônes de la photographie surréaliste. Donc le photomontage, et c'est quelque chose que montrait ma collègue et co-commissaire de l'exposition Karolina Lovandowska dans le catalogue, les photomontages ont deux sources, ont cette source, on parlait de cette pratique professionnelle. Le photomontage, on en fait pour de la mise en page pour les magazines, dans la publicité, et elle va apporter ce souci et sa technicité du photomontage dans le champ surréaliste. Et ce qu'elle apporte avec ses photomontages surréalistes, qu'elle commence à développer à partir de 1934, c'est qu'elle met en image des images de rêve. Et des images de rêves qui ont l'air vrais, qui ont l'air objectifs.
C'est son inconscient qu'elle prend en photo ou qu'elle fabrique avec ses photomontages.
Oui, on a l'impression. Je pense par exemple à une des photographies que nous avons dans la collection au Centre Pompidou depuis même avant la création du Centre Pompidou, qui est le simulateur et qui montre c'est une image de rêve, une image claustrophobique où on voit en fait un espace complètement qui en fait le le plafond de l'orangerie du château de Versailles, que Dora Maar a retourné. Elle a occulté les fenêtres. Et puis là, elle a pris un des personnages, un petit garçon qu'elle a photographié en Espagne, à Barcelone, une photographie de rue, hein, et qu'elle va inclure dans cette composition en extase complète, qui rappelle les poses de l'hystérie. Et cette image est vraiment... on s'imagine que Paul Éluard et Breton ont reconnu dans les images de Dora Maar une objectivation des rêves et de l'inconscient.
Donc tout ce groupe-là des surréalistes sont évidemment très politisés. Et c'est ça aussi qui les relie, engagement notamment antifasciste d'Amaris Amao. Qu'est-ce qu'on peut dire du rapport à la politique de Dora Maar ?
Alors, déjà, il faut évoquer le nom de Louis Chavance, qui va peut-être être assez déterminant dans sa politisation. Donc, Louis Chavance fait partie de ce petit cercle de jeunes gens modernes que j'évoquais tout à l'heure avec Marianne Clouzot, et qui, lui, va déjà assez tôt s'organiser, dès le début des années 30, être dans des cercles d'extrême gauche. Et il va être le compagnon de Dora Maar dans ces années-là, et il va emmener Dora Maar sur le chemin de cette politisation et de cette conscience antifasciste notamment. Et en 34, ça va être le moment de réunion, le cercle de Louis Chavance aussi. On parlait de Prévert, va rencontrer les surréalistes au moment des émeutes d'extrême droite de 1934. Ils vont signer ensemble plusieurs l'appel à la lutte à l'instigation d'André Breton, et puis ensuite l'enquête d'unité d'action. Et c'est d'abord sur ce terrain que la rencontre avec les surréalistes va se faire.
Ou sur le terrain révolutionnaire. Voilà. Vous rappelez qu'elle a été maîtresse aussi de Georges Bataille, fin 33, début 34. Ça a dû jouer aussi dans le développement, en tous les cas, de sa réflexion politique. Peut-être que l'un et l'autre se sont influencés.
Oui, alors Dora Maar va intégrer le groupe Contre-Attaque qui est lancé par Georges Bataille. Il va même être en charge de la permanence téléphonique. Donc on sent que à ce moment-là, et ça se reflète aussi dans le changement de régime photographique, c'est-à-dire qu'on a parlé de ses photographies qui sont faites dans le cadre du studio, très glamour. Elle parle elle-même de sa période mondaine. Et c'est un moment où Dora Maar aussi va descendre dans la rue, hein, photographier la zone, photographier les classes populaires. Et c'est cette conscience politique qui se fait à cette époque-là, qui se reflète tant dans le changement de son cercle, de son réseau, que dans sa photographie.
Et bientôt, c'est la rencontre avec Picasso.
Picasso. Je connais une jeune femme. Elle a eu une dépression. Elle s'est imaginée être une reine. Et pas n'importe quelle reine, mais la reine du Tibet. Et elle se comporta aussitôt en reine. Elle n'a plus voulu se chausser. Une reine marche pieds nus. Elle n'a plus voulu manger. Une reine, n'est-ce pas, est au-dessus de ces choses. Et elle a parlé tout le temps d'un duc. Le duc a fait ceci, le duc a fait cela. Mais quand on lui a parlé de ce duc, elle a répondu « Il n'est plus duc, il a été nommé comte ». Jacques Prévert, c'est merveilleux. Un duc qui a été nommé comte. Picasso, c'est merveilleux et c'est inquiétant. Nous sommes dans la féerie et dans le cauchemar. Où est la frontière entre l'imagination et le délire ? Brassailles ajoute dans une note en bas de page, cette personne était Dora Maar.
De conversation avec Picasso de Brassailles, lui ici par Michael Cohen. Donc c'est justement durant cette période de contre-attaque que Dora Maar fait la rencontre de Picasso au café des Deux Magots. C'est Paul Éluard qui les aurait présentés. Et là, il y a cette scène très célèbre du couteau d'Amaris Amao.
Oui, cette fameuse scène qui aurait été une scène un peu d'hypnotisme pour hypnotiser Picasso.
Ça a marché.
Oui, ça a l'air d'avoir fonctionné. Pour être peut-être au plus proche des sources qu'on a, on pense que cette rencontre, elle s'est faite en plusieurs temps. Il y a cette fameuse scène dans le café. Mais...
Donc, ou alors elle prend un couteau et puis, entre ses phalanges, elle le passe très très rapidement jusqu'au sang, en fait.
Jusqu'au sang, et donc c'est ce sang qui... voilà, c'est cette audace, qui est cette femme, cette jeune femme qui ose se mutiler pour attirer l'attention. Et c'est peut-être quelque chose, un point d'assez intéressant, c'est que très souvent dans l'histoire du surréalisme, les femmes sont des muses, les rencontres que font Paul Éluard ou Breton sont le fruit de rencontres, d'hasards objectifs, et on oublie qu'un peu ces jeunes femmes aussi ont été plus manipulatrices, elles ont orchestré ces rencontres.
C'est le cas avec Dora Maar,
et la même chose avec Jacqueline Namba et André Breton. Donc elles ont été très actives aussi, plus actives que l'histoire ne le retient.
Parce qu'elle admirait déjà Picasso.
Elle admirait en effet apparemment Picasso. Elle a eu l'occasion de le rencontrer. On parlait de son engagement politique. Elle est proche à l'époque du groupe Octobre et elle va photographier elle va prendre des photographies de plateau d'un des films avec Jean Renoir qui est Le Crime de Monsieur Lange, où elle va photographier faire des photographies de plateau, et à ce moment-là elle aurait rencontré déjà Picasso. Il y aurait après ensuite la rencontre dans ce café, et c'est Paul Éluard qui va achever de les faire se rencontrer.
Oui, donc ils vont devenir des amants turbulents jusqu'en 1943. Elle vit rue de Savoie et lui rue des Grands Augustins, en voisin. On dit de Dora Maar qu'elle s'est assurée une place dans l'histoire du surréalisme grâce au rôle qu'elle a joué auprès de Picasso comme maîtresse ou modèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Damaris Amao?
Alors, disons que c'est difficile de faire l'impasse de cette relation avec Picasso, surtout que elle a été très fructueuse. Mais il faut peut-être se rappeler que quand Picasso rencontre Dora Maar fin 35-36, c'est elle qui est la photographe en vue, qui a de nombreuses commandes, qui commence à côtoyer les surréalistes. Et lui, Picasso, est plutôt dans le creux de la vague, d'un point de vue personnel. Ça fait longtemps qu'il ne peint plus, on se demande même.
Le cubisme aussi est derrière lui.
Voilà, est derrière lui. Et la relation et la rencontre avec Dora Maar va être très importante pour lui, parce qu'elle va le relancer d'un point de vue artistique. C'est vraiment ils sont d'égal à égal quand ils se rencontrent. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et qu'on a essayé de montrer dans l'exposition. C'est une relation bien sûr amoureuse, mais c'est une complicité artistique qui se noue.
Et dans les deux sens, on va essayer de le voir. Alors, il y a évidemment La femme qui pleure, qui est le titre d'un tableau que lui a consacré Picasso. Je vous propose d'écouter Francis Ponge en parler.
L'importance de la couleur ne doit pas être sacrifiée, puisque c'est un tableau violemment coloré, n'est-ce pas, et qu'on ressent immédiatement à la fois comme très dessiné et comme très violemment coloré. Alors, dans certains tableaux de Picasso, il y a des délicatesses de couleurs qui n'apparaissent pas ici. Il y a pourtant ici des tons très rares, n'est-ce pas, comme par exemple le ton du manteau, qui est un brun violacé, n'est-ce pas, une couleur difficile à obtenir et rare, et qui s'oppose aux couleurs quasi pures du vermillon, du jaune et du bleu de la face. Il faut aussi remarquer, du point de vue de la couleur, le fait qu'il est placé dans le haut du visage de la femme, autour des yeux et entre les yeux, des taches mauves qui viennent évidemment en complémentaire du vert et du jaune qui s'y opposent le plus brutalement qu'il soit, n'est-ce pas ? Cette brutalité d'ailleurs ajoute à la force du tableau, je ne l'emploie pas du tout comme un mot défavorable, cela ajoute à la puissance de l'expression.
Une femme qui pleure, une femme qui pleure, mais aucune larme ne coule.
La compagnie des œuvres sur France Culture et cette archive avec l'écrivain Francis Ponge au sujet de cette peinture inspirée par Dora Maar. Que vous inspire justement cette archive d'Amarissa Mao?
Ah, est-ce qu'elle m'inspire? Je trouve que c'est déjà une très belle description de ce tableau et en même temps, c'est une image, c'est un portrait qui a longuement pesé auprès du public sur qui était Dora Maar. Elle a souvent et encore aujourd'hui été réduite à ce portrait.
C'est un portrait qui fait un peu peur.
Sur lequel on fait des projections aussi psychologiques sur l'état de Dora Maar et sur la nature de sa relation avec Picasso qui en même temps est assez intéressant au moment de sa production sur cet échange artistique qui se noue avec Dora Maar entre Dora Maar et Picasso à ce moment-là autour de Guernica le fait aussi que Dora Maar disait que tous les portraits de Picasso n'étaient pas elle finalement,
oui, que c'était lui finalement qui se représentait. Donc,
oui, voilà, c'était plutôt des autoportraits de Picasso.
On peut pas nier que la plupart des peintures de Picasso de Dora Maar sont des femmes qui pleurent. Alors on a l'impression qu'il ne la voyait que comme cela.
Alors il y a d'autres portraits, il la voit aussi allongée, il fait des esquisses d'elle par exemple à Mougins. Les étés à Mougins avaient l'air d'être des étés heureux en 36, 37, 38, donc il la montre aussi dans d'autres dispositions.
Mais par rapport à Marie-Thérèse Walter, qu'il peint aussi à la même époque et qui est son notre amante, on voit qu'il y a de la douceur dans ces portraits de Marie-Thérèse qu'on ne retrouve pas du tout dans les portraits de Dora Maar.
Là, c'est vrai qu'il y a une la femme qui pleure est plus donne une image beaucoup plus intense, beaucoup plus beaucoup plus volcanique. Et c'est intéressant que vous évoquiez cette relation. Moi, ce que j'en retiens aussi, c'est un tableau que nous n'avons pas pu montrer à Paris, mais qu'on a montré à la Tate à Londres, et qui est un tableau qui s'appelle La Conversation, et qui est une sorte où il y a de dos un personnage féminin qui a une chevelure brune et qui semble être Dora Maar. C'est un tableau que Dora Maar peint, et face à elle, confrontée, il y a une figure féminine blonde, et il se joue comme ça peut-être cette rivalité que Dora Maar met en peinture et qui est assez intéressante pour lire la relation qu'il pouvait y avoir à Picasso, mais surtout entre ces deux femmes.
Au même moment, il y a aussi des portraits que fait Dora Maar de Picasso, avec un style qui est un style qu'on pourrait peut-être qualifier de picassien. En tous les cas, elle a beaucoup regardé le peintre espagnol.
Oui, ça, c'est vrai que la rencontre avec Picasso, il y a la photographie qui va être en jeu. Picasso va prendre de la photographie, et Guernica est par exemple à ce titre un tableau éminemment photographique. Elle lui apprend des techniques plusieurs techniques photographiques, et en même temps, c'est un moment où Dora Maar reconsidère sa vocation de peintre. Et peu à peu, elle va délaisser sa carrière photographique avec lequel elle connaissait beaucoup de succès, et elle va réapprendre la peinture. Et elle a un maître sous la main, donc elle va copier Picasso, produire comme Picasso. Mais on peut le voir comme un moment où elle se réapproprie le langage pictural et qu'elle compose, recompose à partir de Picasso.
Et pourquoi abandonner la photographie? Enfin, elle ne l'abandonnera jamais totalement, mais pourquoi ce désir de retourner à la peinture?
Ah, ça, c'est une bonne question. Beaucoup de photographes, notamment de cette époque, sont tiraillés entre la reconnaissance artistique de la photographie. À la même époque, quelqu'un comme Man Ray se dit qu'il veut revenir à la peinture, qu'il veut revenir au dessin. Quelqu'un comme Vols aussi va être entre deux. Quelqu'un comme Rassai, qui a beaucoup côtoyé Picasso, va résister finalement. Et Picasso, on le sait, voilà, Hardy était assez provocateur sur ce plan-là, essayait tout le monde, essayait de pousser toutes les personnes qui l'entouraient à revenir à la peinture. Alors on ne sait pas dans quel but.
La photo restait un art mineur pour la plupart des gens, dans l'esprit de la plupart des gens.
Oui, dans l'esprit des gens, la photographie restait voilà une pratique commerciale, une pratique bien sûr moderne, mais ou un outil, un moteur de création, mais pas le grand art.
En fait, mon histoire au musée Picasso a commencé avec Dora Maar. Quand je suis arrivée au musée en 1992, ma première exposition, très vite, a été consacrée à Picasso photographe. J'avais découvert dans le fond des archives Picasso un fonds de photographie anonyme et elles étaient de Picasso. Et je me suis tournée vers Dora Maar qui était vivante et extrêmement intelligente. Et nous avons une relation téléphonique parce qu'elle vivait de manière recluse depuis longtemps. Et je l'ai interrogée sur cette pratique photographique de Picasso, ce qui l'a beaucoup amusée, parce que pour elle, Picasso n'était pas un photographe. Ce n'était pas mon point de vue. Et j'ai essayé, dès ce moment-là, de monter une grande exposition qui aurait été consacrée à son œuvre de photographe. Et elle s'y refusait, elle, en disant « Mais je ne suis pas photographe, ça n'a été qu'un temps de mon histoire, je suis peintre. » Et quant à Picasso, il n'a été lui aussi qu'un moment de mon histoire. Et elle était dans la dénégation, dans le rire aussi, dans la moquerie parfois. Et après sa mort, en fait, on a retrouvé chez elle tout un fond de photographies originales de Picasso qu'il lui avait confié et qu'elle avait reproduites. Elle les avait dupliquées, elle en avait fait des tirages modernes, des agrandissements. Donc elle avait peut-être oublié, car elle avait à ce moment-là 88 ans, mais Picasso lui avait bien confié sa pratique photographique.
Mais c'est elle en plus qui l'a initiée à la photo.
Pas tout à fait. Parce que justement, Picasso commence à travailler photographiquement dès le début du siècle. Il photographie ses propres tableaux, il réalise toute une série de photomontages très importants. Les premiers, en fait, de l'histoire de la photographie en 1912, parallèlement à ses recherches cubistes. La photographie a toujours été pour Picasso un laboratoire secret. En deçà de sa pratique picturale et un lieu obscur, et une sorte de matrice à image. Il parlait de l'épaisseur des plaques de verre, car il utilisait des plaques de verre comme de l'intérieur même du lieu où se forment les images. Et c'est aussi ce côté occulte, inconscient de l'imagerie photographique qui fait que d'emblée sa relation avec Dora Maar va entrer dans la légende des images, là où les choses se forment, là où les choses prennent forme. I've been looking so long at these pictures of you that I almost believe that they're real. I've been living so long with my pictures of you that I almost believe that the pictures are all I can feel.
Sur la compagnie des œuvres et cette archive de Anne Baldassari, ancienne directrice du musée Picasso de Paris. Nous sommes avec Damaris Amao pour parler de Dora Maar et de l'influence croisée Picasso-Dora Maar. Qu'est-ce que vous retenez justement en termes de photographie de cette influence croisée et donc peut-être en particulier de ce que Dora Maar a pu apporter à Picasso ?
Alors oui, c'est vrai que dans l'exposition, on a voulu accentuer notre focus sur leurs échanges. Et je rappelais au début de l'émission le fait que Dora Maar, elle se forme vraiment professionnellement et techniquement. Elle a une très grande maîtrise du tirage, du laboratoire. Et même si Picasso avait une pratique amateur, pratique photographique amateur, il n'est pas aussi au point d'un point de vue des possibilités encore chimiques de tirage qu'on peut faire, et c'est ce qu'apporte Dora Maar.
Il est moins moderne parce qu'il est plus vieux aussi peut-être.
Oui, je dirais pas qu'il est moins moderne, mais bon, il s'est concentré sur la peinture et il y a beaucoup de possibilités avec la photographie, et j'aime cette idée que Dora Maar l'entraîne dans la chambre noire, notamment pour faire les clichés verts. Elle lui montre la technique du cliché vert, qui est une technique assez particulière, sans appareil photo, où finalement Picasso allie son geste graphique au phénomène d'apparition photosensible.
Ouais. Donc il y a le grand moment de Guernica, avec le personnage de Dora Maar qui est à l'intérieur
du tableau de Guernica. C'est l'acmé un petit peu de leur relation pendant la guerre et autour de ce tableau d'Amaris Amao.
Alors oui, ce qu'il faudrait rappeler déjà, c'est que Dora Maar, elle est très très investie hein, dans la réalisation de ce tableau qui lui est commandé par la jeune République espagnole, et c'est elle qui va lui trouver le studio pour pouvoir faire ce tableau monumental, parce qu'elle connaît, elle sait que le groupe Octobre répète dans cet atelier, donc elle sait qu'il y a un espace pour Picasso pour travailler. Elle va lui apporter ses lampes de studio pour éclairer la toile. Et puis, elle va photographier les métamorphoses de cette toile. Et donc, c'est Picasso qui avait déjà l'envie, il y a quelques années auparavant, de pouvoir enregistrer toutes les différentes phases d'une peinture.
Donc, c'est Guernica, la photo documentaire, en l'occurrence.
C'est une photographie documentaire, mais de regarder toutes les phases du tableau montre aussi la manière dont Picasso aussi s'est inspiré aussi de la photographie pour faire ce tableau hein, avec ses valeurs en noir et blanc. Alors bien sûr, il y a les photographies du drame de Guernica qu'il voit dans la presse et qui vont nourrir sa composition, l'idée même de la composition. Et puis peut-être cette idée de rester en noir et blanc est peut-être très inspirée aussi par la valeur photographique.
Ensuite, leur relation va s'étioler. En 1944, Picasso aide Dora Maar à acheter une maison à Ménerbe. Et l'année d'après, c'est la rupture.
Oui, la relation entre Picasso et Dora Maar a duré à peu près 9 ans. Et elle va progressivement se déliter à la fin des années 40. Dans le même temps, Dora Maar va... Il y a plusieurs métamorphoses hein, chez Dora Maar qui s'opèrent progressivement. Elle va abandonner son identité de photographe pour se concentrer sur la peinture. Elle va continuer à peindre avec en même temps que Picasso, et à la fin de sa relation quand même, même si ils se séparent, elle renaît d'une certaine manière comme artiste peintre.
Elle était tragique et jalouse avant Picasso, avant Bataille. Les poèmes qui sont présentés d'ailleurs au musée, dans une des vitrines, montrent que dès 32, elle se décrit comme un personnage déchiré par la jalousie. Et cette image des ongles qu'elle utilise tout le temps dans sa poésie, de grands ongles peints, et Picasso la montre comme ça. Et elle dit qu'elle se déchire avec ses grands ongles de la jalousie. Ce sont des griffes, ce sont ces griffes de la sphinge qui vont devenir son blason chez Picasso. Eh bien, ça a commencé très tôt. Dora Maar est un personnage déjà tragique, et Bataille ne va pas l'arranger, Picasso encore moins. Et elle va se prendre à ce jeu. Néanmoins, elle est dans un rapport d'aficionado à l'égard de l'œuvre de Picasso. Elle le considère comme le plus grand artiste. Elle lui écrit. Elle est entièrement convaincue de son importance. Et elle est capable de faire un chemin professionnel, artistique, de photographe et de témoin à l'égard de Picasso, tout en étant une femme ravagée par la passion. Ce sont des voies parallèles. Vous savez, ce magnifique portrait par Man Ray, où on voit Dora... C'est un photomontage solarisé. Et en fait, on a deux petites mains qui se tiennent l'une l'autre avec des bracelets, des longs ongles. Et c'est un photomontage. C'est déjà cette image de Dora. Et c'est avant Picasso, puisque Man Ray raconte que Picasso découvre cette photo au mur de l'atelier, tombe amoureux de la photo et de la femme en même temps, exige qu'on lui donne cette photographie, et en échange offre à Man Ray une épreuve de la minotauromachie qui vient d'être imprimée, d'être tirée chez la Courrière en novembre 35. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important de comprendre que ce phénomène Dora Maar, souffrant, tragique, en auto-scrutation, en auto-déchirement, est déjà actif.
Anne Baldassari, toujours évoquant Dora Maar en personnage tragique. C'est vrai que c'est une image qui lui colle un peu à la peau, et on a du mal à détacher l'idée qu'on se fait de Dora Maar, de la tragédie de sa vie et de la tragédie que va être sa vie pendant les 10 ans justement qui suivent la rupture avec Picasso, mais aussi qui suivent la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le traumatisme de la guerre, la mort peut-être de Nuche Éluard qui était son ami très proche. Donc il y a tout un tas de choses qui font qu'elle rentre quand même dans un moment très difficile de sa vie, Damaris Amao.
Oui, c'est vrai que la fin de la guerre, peut-être avec tous les événements qui se passent, le départ de le décès de sa mère aussi, la mort de Nuche Éluard le 28 novembre 46, qui était une amie très chère, le délitement du couple avec Picasso, voilà, accentue peut-être une instabilité émotionnelle, psychique, qui se reflète notamment dans un très beau autoportrait de l'époque, où on la voit avec une sorte de masque de désespérance, un autoportrait assez expressionniste qui montre, hein, la pesanteur de la pesanteur de la période. Après, je pense qu'au sortir de la guerre, de nombreuses personnalités de cette époque devaient être dans une situation personnelle et émotionnelle, psychique, qui finalement devait être assez commune. Donc bien sûr, peut-être une personnalité, donc c'est difficile, hein, je l'ai pas connue, Dora Maar, mais une personnalité peut-être déchirée, passionnée, mais aussi des événements historiques, des difficultés sur être artiste, comment être artiste et vivre d'être artiste, qui ont peut-être aussi qui explique aussi cette situation.
Donc elle disparaît des galeries pendant 10 ans, mais pour vous, elle ne s'est pas arrêtée de travailler. Elle a pas abandonné son art.
Oui, avoir eu accès à ses archives, on voit que Dora Maar a continué à dessiner, à peindre dans l'intimité de son atelier. Elle a montré un peu son travail à son cercle le plus proche après guerre. Et donc ce que pose un peu cette situation, enfin faut s'imaginer, hein, au moment de son décès ou quand il y a eu les ventes de son atelier, on s'est déchiré sur s'est rué sur les restes, sur ce qu'il y avait de Picasso, sur les témoignages d'amitié de ses amis les plus célèbres, des Balthus par exemple, mais et son atelier c'est un peu dispersé, des milliers de dessins
qui ont parfois été vendus par lot.
Par lot,
ce qui paraît très étonnant quand même.
Qui n'ont été pas du tout inventoriés, donc un peu vendus dans l'indifférence. Et c'est quand même 60 ans de travail dont on ne pourra plus jamais reconstituer l'ensemble, seulement en enquêtant des bribes par-ci par-là. Et donc ça pose la question de, en tant qu'historien de l'art, bien sûr, il y a une difficile reconnaissance des femmes qui ont été artistes, mais peut-être que ça tient aussi au fait qu'il faut changer notre curseur pour nos modes d'appréhension. C'est-à-dire que même si elle a continuer à créer dans l'intimité, et qu'elle n'a pas exposé tous les ans dans une grande galerie parisienne, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a été moins artiste, que son œuvre était plus amateur? Non. Le dessin, la peinture a été vraiment son quotidien. Et je pense que c'était important, nous, dans l'exposition, de le mettre, de montrer qu'il y a une continuité, en fait.
Il y a un retour aussi à la photographie. À un certain moment de sa vie, elle semble se réconcilier quand même avec ce médium.
Oui, c'est quelque chose que je trouve assez émouvant. C'est qu'il faut s'imaginer que après, dans les années 80, Dora Maar a plus de 70 ans, 80 ans, et elle retourne dans la chambre noire. Alors j'imagine que c'était par le fait que photographier, reprendre un appareil photo, photographier dans la rue, ça devait être assez difficile pour la vieille dame qu'elle était devenue. Mais elle va réconcilier le geste de la peinture, du dessin dans la chambre noire en refaisant des photogrammes, ses dessins de lumière et qui montre comme ça quand même quelqu'un qui a continué à chercher artistiquement.
Et qui revient sur ses années de jeunesse en reprenant des anciens clichés des années 30 et en altérant les négatifs, il y a aussi quelque chose d'assez beau finalement dans ce retour sur elle-même.
Oui, c'est un très beau cycle. En plus, on évoquait avec Anne Baldessari dans le passage que vous avez fait passer, évoquait le fait que Dora Maar, pendant de nombreuses années, c'est ce qui fait que sa réception, elle a été beaucoup... On a mis du temps à bien connaître son travail. Elle se refusait à être connue comme photographe. Il faut s'imaginer, en fait, parce qu'on est... C'est depuis les années 70 que les historiens de l'art ou de la photographie cherchent à montrer son travail. Mais pendant des...
Donc il y a aussi un refus qui vient d'elle.
Qui vient d'elle. Et qui vient aussi peut-être... comme elle n'était pas, elle avait pas l'air d'être très féministe, elle avait pas l'air d'avoir accordé beaucoup de valeur à son travail de photographe, paradoxalement. Ouais. Quand même, à 80 ans, dans la chambre noire, elle refait de la photographie, elle refait du dessin photographique, et donc c'est assez intéressant ce retour qu'elle a sur elle-même et sur sa pratique.
Et à quel point est-ce qu'elle est importante aujourd'hui pour les jeunes photographes, par exemple, ou pour tous ceux qui s'intéressent à la peinture? Vous avez le sentiment qu'elle est un point de repère?
Alors, l'exposition a été une belle surprise pour nous, commissaire, de voir au niveau des jeunes générations, que l'œuvre de Dora Maar avait pouvait toujours résonner, la modernité de sa photographie commerciale, par exemple, son inventivité dans ce champ de la photographie.
Donc c'est plus la photo qui reste que la peinture.
C'est vrai que la photographie reste le point d'attention de l'œuvre de Dora Maar, avec des parties plus ou moins connues qui vont intéresser, comme la photographie de rue, comme la photographie commerciale. Pour la partie plus picturale, il y a encore un travail à faire. Nous, c'était déjà une ébauche pour offrir à d'autres personnes qui auront envie de travailler dessus un terrain de travail pour poursuivre, pour mieux comprendre ce que ça veut dire d'être artiste peintre et femme après-guerre.
Il y a eu quand même des expositions, pas seulement la vôtre au Centre Pompidou, et puis à la maison Dora Maar. Peut-être un mot sur cette maison qui est affiliée au musée de Houston, mais qui se trouve dans sa maison à elle.
Dans sa maison à elle, à Ménerbe, qui est dirigée par Gwen Strauss, et qui est un lieu qui a été bien sûr modernisé après la mort de Dora Maar. Mais c'est un très beau lieu. Ça se visite, et on peut même faire des résidences pour... des résidences de chercheurs pour travailler sur Dora Maar et pas seulement.
Voilà, n'hésitez pas à candidater. Merci beaucoup Damaris Amao. Je renvoie nos auditeurs sur le catalogue de l'exposition Dora Maar dont vous étiez la curatrice. Il est disponible aux éditions du Centre Pompidou.